Sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le 12 novembre 2007 s'est déroulée sous la coupole la séance solennelle de rentrée de l'Académie des sciences morales et politiques. Selon l'usage, le président en exercice, désigné pour l'année, a dressé le bilan de son mandat, le secrétaire perpétuel a prononcé un discours et le palmarès des prix et médailles des fondations, placé sous l'égide de l'Académie, a été proclamé en grande cérémonie ce jour-là. Ainsi, pour cette occasion, académiciens, lauréats et mécènes étaient réunis sous la coupole. Canal Academy vous propose d'entendre la retransmission de cette séance solennelle. Vous entendrez successivement Lucien Israël, président en 2007, dresser le bilan des séances de l'Académie des sciences morales et politiques. De nombreux médecins et biologistes sont venus tout au long de l'année traiter du thème « santé, médecine et société » qu'il avait choisi. Dans son discours, Lucien Israël a rappelé l'importance de la prévention en médecine, thème qui lui tient particulièrement à cœur. Vous entendrez ensuite la proclamation du palmarès par le vice-président François Terret. Cette année, un nouveau prix a été créé, le prix national de criminologie. Et pour finir, vous entendrez Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, prononcer un discours sur l'actualité de la vie académique. Retrouvons-les sous la coupole ce lundi 12 novembre 2007.
Je déclare la séance ouverte. Monsieur le Président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes, Madame et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le chancelier, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, mes chers amis. Être médecin, surtout dans la spécialité qui est la mienne, c'est être confronté à la mort plus que beaucoup d'autres. Être président de l'Académie peut, selon les années, vous confronter de façon cruelle à l'inévitable extinction de la vie. Cette année a vu disparaître 5 des membres de notre compagnie, c'est-à-dire 10%. Et le président, fut-il médecin, ne peut rien y faire, si ce n'est accomplir avec constance le devoir de mémoire qui lui est dévolu. Ainsi vais-je rappeler les noms prestigieux de ceux qui nous ont quittés cette année et dont l'absence se fait cruellement sentir. Édouard Bonnefous, chancelier honoraire de l'Institut de France, Jean-Marie Zembe, Henri Amourou, Raymond Barre, ancien Premier ministre, et Pierre Messmer, lui aussi ancien Premier ministre, qui fut secrétaire perpétuel de notre compagnie, puis chancelier de l'Institut de France. Sont également décédés le physicien Karl Friedrich von Weizsäcker, membre associé étranger, Mgr Bernard Jacquin, correspondant. Mais être président de l'Académie, c'est tout aussi bien célébrer la vie renouvelée qui, dans le monde spirituel et qui est celui des académiciens, se crée par voie de reproduction électorale. Nous ont ainsi rejoint au cours de cette année M. Gilbert Guillaume, qui succède à Jean-Marc Varro, Mme Mireille Delmas-Marty, qui succède à Jean Cazeneuve, Mme Chantal Delsol, qui succède à Roger Arnaldez, et en tant que membre associé étranger, M. Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg, qui remplace Léopold Sédar Senghor. Selon toute vraisemblance, 2 autres membres titulaires nous rejoindront encore d'ici à la fin de mon année de présidence, car il y a des élections en vue. Le thème des conférences et débats de notre Académie au cours de l'année 2007 aura été « Santé, médecine et société ». Pour le traiter, il a été fait appel à beaucoup de médecins et biologistes exerçant de hautes fonctions dans diverses facultés de médecine, services hospitaliers et laboratoires de l'ensemble de notre pays. Je me devais de choisir ce sujet, étant moi-même médecin. je me devais de le choisir pour analyser et faire analyser la grave crise que traverse la médecine. La France dispose de plus de médecins qu'elle n'en a jamais compté, et pourtant les médecins, surmenés, démotivés, s'interrogent sur leur avenir, sur les déserts médicaux qui gagnent du terrain, sur les hôpitaux en déficit manquant cruellement de personnel et sur la formation des jeunes générations à l'art médical. Entre parenthèses, dans quelques décennies, on ne dira plus art médical, mais science médicale. La médecine pâtit particulièrement de mesures qui ne lui étaient pas destinées et qui ont été prises trop hâtivement, sans mûre réflexion, sous la pression de l'opinion publique et de l'air du temps véhiculé par les médias. Les 35 heures de travail hebdomadaire, saluées en leur temps comme une formidable avancée sociale, ont eu, comme l'a fort bien montré l'ouvrage intitulé « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse », publié par notre Académie au début de l'année, des effets contre-intuitifs désastreux. En milieu hospitalier, elles ont eu raison du dévouement des personnels de santé en dévalorisant leur sens du devoir. Elles ont désorganisé les services en privant la responsabilité médicale de l'autorité indispensable à son exercice. On ne peut que s'alarmer en constatant, comme ce fut souvent le cas lors de nos séances hebdomadaires au cours des mois écoulés, que ces phénomènes délétères ont suffi à créer une atmosphère qui dissuade à présent la jeunesse de se tourner vers la médecine et, plus grave encore à long terme, vers la recherche scientifique et médicale. On le voit en choisissant comme thème de réflexion santé, médecine, société, l'Académie des sciences morales et politiques, fidèle à sa tradition, poursuit sa mission de vigie sociétale qui observe le présent dans le souci de l'avenir, d'un avenir aujourd'hui, hélas, assombri par les errements du passé. Santé et médecine sont des sujets qui, à plus d'un titre, engagent à la fois la morale et la politique. La morale, évidemment, car la médecine suppose, de la part de ceux qui l'exercent, une intériorisation des règles de conduite qui doivent gouverner la prise en compte de toute situation de souffrance, de douleur et d'inquiétude vécue par tout être humain qui demande une aide. Dans ce domaine, il est toujours impérieusement nécessaire, et peut-être de plus en plus de nos jours, de convaincre tous les membres du corps médical de l'absolue nécessité pour chacun d'eux d'allier la plus grande maîtrise possible de leur art, une tâche de plus en plus délicate compte tenu de la vitesse à laquelle se succèdent les découvertes, avec le dévouement à la personne et avec une évaluation aussi précise que possible de sa psychologie, de son attente, du degré de ses souffrances, de son angoisse, de sa dépendance vis-à-vis d'autrui. Ce dont je viens de parler est évidemment particulièrement attendu par les patients, de la part des médecins des maladies graves, ce qui a été mon cas tout au long de ma carrière, mais aussi sans le moindre doute de la part de tout médecin qui doit toujours inspirer à ses patients la plus entière confiance en la méritant par la justesse de son diagnostic et de ses prescriptions, mais aussi par son attitude, par son soutien sans défaillance vis-à-vis de la maladie et de la situation dans laquelle elle plonge le patient et sa famille. Avant d'en venir, après la morale, à la société et donc à la politique, je me sens tenu de dire ici quelques mots sur l'euthanasie, un sujet qui vient d'être traité dans notre académie. Beaucoup de bien-portants militent en faveur de la légalisation de l'euthanasie, c'est-à-dire de la mise à mort sans douleur d'un patient qui se trouve dans une situation jugée au-delà de toute possibilité thérapeutique et dans une situation de souffrance physique ou morale insupportable. J'ai, durant toute ma carrière, lutté contre cette pratique, car j'observais que le patient dont on calme les douleurs, ce qui est toujours possible, et auquel on témoigne la tension et la fraternité dues à tout être humain, même en situation extrême, renonce à demander qu'on le supprime et accueille chaque jour avec gentillesse et reconnaissance les médecins et les infirmières qui prennent soin de lui, voire en renonçant explicitement, ce qui a été souvent le cas dans ma carrière, à une demande qu'il avait d'abord exprimée. Il devient ainsi totalement inutile aux membres du corps médical de supprimer un de leurs frères humains, de supprimer une vie humaine. Par là, entre autres, on ne risque plus de briser le lien symbolique entre générations, ce qui adviendrait si les jeunes apprenaient que l'on peut supprimer légalement leurs aînés. Il y aurait certes beaucoup plus à dire sur ce problème, ainsi que sur le statut moral des médecins, et sur la nécessité d'enseigner dans les facultés de médecine non seulement le savoir, mais aussi la vertu à ceux qui vont prendre en charge le destin de leurs frères humains. Mais il me faut maintenant, après ces considérations morales, en venir aux aspects coutumiers et aux problèmes politiques que soulève la santé et son évolution dans notre société. Aujourd'hui en France, comme dans tous les pays où règne à la fois la démocratie et l'absence de pauvreté généralisée, la longévité moyenne de la population augmente d'un an tous les 4 ans. Et le nombre des personnes atteignant l'âge de 85 ans ne cesse d'augmenter. Mais malheureusement, à cet âge, dans notre pays, un homme sur 3 et une femme sur 4 sont dans un état de dépendance, neurocognitive ou cardiovasculaire, motrice ou respiratoire, d'où bien des souffrances pour eux et pour leur entourage, et donc la nécessité d'augmenter le nombre des services de gériatrie et des maisons de retraite, ainsi que le nombre de prescriptions ayant pour but de soigner, voire de faire régresser ou de stopper, voire même de ralentir l'évolution de ces troubles, ce qui certes ne réduit point le mal-être, l'inquiétude ou la solitude des personnes concernées, et ce qui ne réduit pas non plus, bien au contraire, les frais et les charges assumées, entre autres, par la sécurité sociale. Avant d'en venir à la présentation de quelques remèdes possibles, je souhaite dire un mot de la longévité maximale. Elle est de 120 ans, car au-delà, les cellules ne peuvent plus se diviser et les cellules qui meurent ne sont plus remplacées. Les télomères, qui sont des petits liens qui empêchent les chromosomes de s'effilocher lors de la division cellulaire, s'usent petit à petit, puis disparaissent sans pouvoir être remplacés. Il n'est pas impossible qu'un jour, sur cette planète, les êtres humains atteignent presque tous 120 ans, mais ils n'iront pas au-delà. Cela dit, que faire pour réduire les dépendances dues à l'âge et par là pour assurer non seulement des économies, mais une réduction du mal-être et de la solitude qu'engendrent toutes ces dépendances? Tout d'abord, il serait nécessaire d'enseigner à toute la population depuis le jeune âge comment éviter autant que possible les maladies, l'usure de plus en plus rapide des organes et les dépendances qui s'ensuivent. Bien entendu, la sécurité sociale se devrait d'enseigner à tous les individus ce qui est à faire et ce qui est à éviter pour que les dépendances ne se produisent pas ou soient nettement retardées. Il n'est pas compréhensible que les assurés sociaux et les autres ne reçoivent pas tous une brochure où les gestes de prévention appropriés, fort simples au demeurant, seraient clairement expliqués. Il n'est pas non plus acceptable que les médecins généralistes ne reçoivent pas cet enseignement concernant la prévention des dépendances, laquelle n'est pas enseignée dans les facultés de médecine, et qu'ils ne puissent prescrire les molécules utiles dans ce domaine sur des ordonnances dont le coût serait aussi bien remboursé que celui des produits pour guérir une maladie, elle, avérée. Mais il existe aussi un autre moyen auquel j'ai été initié par hasard au cours de ma carrière et que je vais vous exposer. Un jour, les infirmières de mon service au centre hospitalier universitaire de Bobigny, qui en avaient assez de voir arriver sans cesse de nouveaux cas de cancer du poumon, qui restaient hospitalisés dans un service de médecine cancérologique faute d'être opérables, ou bien qui avaient récidivé après une opération, donc ces infirmières décidèrent sans m'en parler, d'aller dans les écoles maternelles du département pour dire aux enfants, avec l'accord des institutrices, que fumer était toujours très dangereux et provoquait des maladies mortelles. Elle pensait ainsi, et non sans raison, instaurer une sorte d'interdit dans toutes les jeunes consciences, mais elle n'avait pas prévu une autre conséquence. Il nous est très vite revenu que dans beaucoup de foyers du département, les petits s'adressaient en pleurant à leurs parents et en criant « Papa, arrête de fumer, tu vas mourir ». Et beaucoup de papas furent ainsi obligés de céder. Ayant pu constater que nombre de pères et de mères arrêtaient de fumer sous la pression de leurs enfants, j'ai tenté au début des années 90 de rencontrer de hauts responsables au ministère de l'Éducation de l'époque afin de proposer un programme qui serait enseigné dans les petites classes traitant de la prévention par abstention, programme que je me proposais de mettre au point en accord avec des confrères de toutes spécialités. Mais je ne parvins pas même à convaincre les instances du ministère de me recevoir. Un des responsables me fit dire par une secrétaire au téléphone « Envoyez-nous une demande circonstanciée signée par au moins 20 membres de l'Académie de médecine, confrérie à laquelle je n'appartenais pas, et nous la soumettrons à nos instances. » Ulcéré par cette réponse opposant sans considération des enjeux la puissante force d'inertie administrative à mon initiative, j'ai renoncé à mon projet. Il n'en demeure pas moins qu'il y a bien un âge dans le primaire où il faut de préférence intervenir si l'on veut susciter des réflexes et des conduites de prévention. C'est pour cette raison que le compte-rendu de la présente conférence sera remis au ministre de l'Éducation nationale, notre très apprécié le confrère Xavier Darcos au sein de notre académie, avec l'espoir qu'il pourra obtenir que ses services en tiennent compte. Il est absent aujourd'hui qu'il est retenu par des tâches plus hautes. J'ai jusqu'ici abordé divers problèmes en relation avec la santé, mais il en est un autre que je ne veux omettre et qui lui aussi implique les politiques. Je veux parler des problèmes du milieu ambiant. Je salue à ce propos l'importante initiative prise par le président de la République pour la tenue du Grenelle de l'environnement, mais il est clair qu'il sera long et difficile de résoudre les problèmes posés par l'amiante, les pesticides, les cheminées d'usines, les radiations de toutes sortes, les moteurs de voitures. Tout cela crée un milieu très délétère qui agresse les humains dès la petite enfance et qui est responsable de divers cancers, d'une usure cellulaire responsable du vieillissement de plusieurs organes, ainsi que de dépendances respiratoires et neurologiques. Nous ne sommes pas, chacun le sait, le seul pays exposé, loin de là, mais il est indispensable que les responsables de toutes les nations comprennent enfin que toute l'humanité est en danger réel et proche à cause de cela et qu'on ne peut plus attendre avant que l'humanité n'en pâtisse de façon irréversible, de trouver de façon consensuelle des remèdes à ce désastre par un accord international précis. Il n'y a donc pas seulement lieu de tenter de mettre de notre côté certains ministères français, mais il faut aussi parvenir à se faire entendre de toutes les instances internationales qui aujourd'hui font la sourde oreille car elles ignorent ou veulent ignorer l'étendue et l'urgence du problème. Avant de terminer, il faut que je précise un point sur lequel je n'ai pas assez insisté. La très grande majorité des lésions cellulaires que provoquent tous les agents dont j'ai parlé sont dues à des phénomènes d'oxydation. D'oxydation soit des gènes, soit des protéines que ceux-ci fabriquent, soit des substances que nous ingérons. Parmi toutes les précautions à prendre pour éviter ces lésions ou pour les réduire, figure l'ingestion régulière d'antioxydants, dont beaucoup, d'ailleurs, sont des fruits et des légumes, de préférence non cuits. Les mesures alimentaires qui doivent en découler sont simples, mais encore faut-il les enseigner à tous. C'est ce message que nous aimerions porter à l'ensemble des politiques, entre autres, de façon suffisamment répétitive pour qu'ils l'apprennent et de façon suffisamment énergique pour qu'ils mesurent leurs responsabilités et réfléchissent ainsi à leur avenir électoral. Je veux, en terminant, remercier tous mes confrères de l'Académie des sciences morales et politiques d'avoir accepté le programme de mon année de présidence, programme établi grâce au concours précieux de mon cher collègue et ami, le professeur Gérard Milhaud, ici présent, président de la section de médecine sociale de l'Académie nationale de médecine. Mes remerciements vont également à tous les orateurs, médecins et biologistes, confirmés et appréciés, qui ont bien voulu contribuer par leur conférence à construire une somme qui sera bientôt disponible sous forme d'une publication. Nous veillerons bien sûr à adresser celle-ci directement à toutes les personnes influentes des milieux politiques et elle sera bien entendu, mesdames et messieurs, à votre disposition. En dépit de tous ces avertissements, je conclurai sur une note différente. Tous les progrès en cours de la biologie et de la médecine me portent à croire que dans moins d'une génération, mes successeurs dans la carrière de cancérologie pourront dire à leurs patients « ça n'est pas grave, c'est un cancer ». Parmi les progrès en question, je veux faire état d'un point particulier qui concerne les cellules souches. Ces dernières, qui existent dans tous les tissus, ont pour fonction de se diviser lors de la mort par usure ou accident d'une cellule adulte et ainsi de la remplacer. Des travaux récents, dont certains ont été menés par une chercheuse française, Marie-Louise Labat, qui nous a fait l'honneur de donner tout récemment une conférence dans notre académie, montrent qu'on peut à tout âge obtenir des cellules souches dites multipotentes, notamment dans la moelle osseuse, et de les faire se transformer en cellules de tout organe afin de pouvoir réparer un dommage jusque-là irréversible. Il devrait ainsi être très vite possible de guérir des maladies réputées aujourd'hui incurables, de rétablir des fonctions compromises par l'âge ou par diverses agressions, et cela dans tous les organes. Certes, le coût n'en sera pas nul, mais ce coût sera compensé par le fait que les dépendances, au lieu d'être acceptées dans une vie altérée, seront guéries, voire évitées. Chacun, alors, dans les pays bien organisés, atteindra un grand âge en bonne santé. Mais cela ne devra pas empêcher, et je reviens sur ce thème majeur à mes yeux, d'enseigner à chacun comment éviter les dépendances de tous ordres. C'est donc en insistant sur cette nécessité d'instaurer un enseignement généralisé de la prévention et en adressant un appel pressant à toutes les instances concernées que je conclus mon propos. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Monsieur François Théré, vice-président de l'Académie, qui va nous donner connaissance des lauréats des prix décernés cette année. Chers confrères et amis.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames, Messieurs, Messieurs les anciens ministres, Présidents ou vice-présidents, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, et j'en oublie, la tâche qui m'incombe consiste à vous présenter le palmarès des prix et des grands ou autres décernés par notre Académie, et ce qui correspond d'ailleurs à la vocation naturelle qui est la sienne depuis fort longtemps. De récompenser donc les actions et les œuvres qui, en matière scientifique, littéraire, historique, sociale, juridique, économique et j'en passe, correspondent à tout un ensemble de conquêtes de grands auteurs qui permettent d'envisager aujourd'hui l'avenir avec satisfaction et même sérénité. Il m'incombe de remercier, bien évidemment, les fondateurs, tous ceux et toutes celles qui ont accordé leur confiance à notre académie, à notre compagnie, en participant à la fondation d'un certain nombre de prix qui permettent aujourd'hui d'animer notre séance et de féliciter les lauréats honorés à qui je demanderai tout à l'heure de se lever, lauréats honorés. D'abord de remercier Claude Dulon-Saint-Denis, notre confrère, du pas encore notre consoeur, notre confrère La famille de notre confrère décédé, Bernard d'Estrémaux, la famille de Luc Durand-Réville, qui fut correspondant de l'Académie, le représentant de Taïwan à Paris, la princesse Anne-Lise Radziwill, qui a créé un prix pour honorer la mémoire de son défunt époux, Daniel Strasser, Janine Gros et les représentants du comité universitaire d'information pédagogique, Alexandre Vatin, président de l'Observatoire des relations franco-allemandes pour la construction européenne, la comtesse Chantal de Saint-Priest et le capitaine François Maurice, Philippe Durieux, et pour finir, Alain Boer, qui vient de créer à l'Académie le prix national de criminologie qui est remis cette année pour la première fois. Vu cette création, c'est à ce premier prix que je consacrerai quelques mots, car on voit bien savoir que la criminologie ne date pas d'aujourd'hui, qu'elle remonte à des travaux du siècle dernier, de Gabriel de Tarde par exemple, et que, par voie de conséquence aussi, c'est en France surtout qu'elle a pris une forme et a acquis une autonomie singulière, et qui, par conséquent, conformant aussi à des formes nées au Québec, a mérité aujourd'hui d'être, grâce à l'impulsion de ses auteurs criminologues, à l'ordre du jour aujourd'hui. Et c'est pourquoi le souhait d'Alain Boer est que la création de ce prix aide à l'institutionnalisation et la reconnaissance universitaire de cette science qui étudie les caractéristiques et les causes de l'acte criminel, non point que dans le passé il n'y ait pas eu à cet égard des efforts connus en Italie, de Lombroso notamment, qui avait décrit le profil du criminel. Seulement Lombroso, il n'avait décrit le profil du criminel qu'à propos de ceux qui étaient en prison. Et on aurait eu envie de connaître le profil des criminels qui n'y sont pas, parce que ce sont peut-être les plus malins, et que ce n'est pas à partir des moins malins qu'on construit véritablement une science créatrice. Mais enfin, ça c'est une adjonction de ma part que vous me pardonnerez et qui n'a rien à voir avec le sujet que je traite à l'instant. Le prix a été donc accordé par un jury composé de nos confrères Raymond Boudon, André Damien, Denis Abot, auquel s'est ajouté et s'est joint Pierre Monzani, directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité, et à propos et au bénéfice d'un auteur qui s'appelle Frédéric Ploquin, grand reporter au journal Marianne pour son ouvrage en deux tomes, Parrain et Caïd, la France du grand banditisme dans l'œil de la police judiciaire, et autre thème, Ils se sont fait la belle, paru chez Fayard. Ceux qui se sont fait la belle, j'aurais aimé avoir leur photographie, mais décidément, je réitère, ce véritable ouïe-zouïe du grand banditisme de notre pays est agréablement écrit et est fort bien documenté. Je demande donc aux lauréats de donner l'exemple aux autres. Allez, debout les uns, applaudissons les autres. J'en viens maintenant à la lecture de l'ensemble du palmarès, en commençant par les grands prix décernés par notre compagnie. Il y a plusieurs catégories, ce sont ces diverses catégories, tout tour à tour, je traiterai devant vous. Il n'y a que des grands prix, en fait, il n'y a pas de bas prix. Et par conséquent, s'il y a des distinctions, c'est le hasard de l'histoire et les circonstances particulières des donations des uns ou des fondations des autres qui expliquent les distinctions qui vont suivre. Les grands prix de l'Académie. Le grand prix Édouard Bonnefous récompense cette année l'œuvre qui aura le mieux contribué à alléger le poids de l'État sur les citoyens. Il est attribué au sénateur, ancien ministre Alain Lambert et au député Didier Migaud. On peut penser d'ailleurs que les activités de M. Alain Lambert comme ministre des Finances ont dû lui permettre de bien comprendre ce qu'il était possible de faire pour alléger le poids qui pèse sur nous du côté de la Bercycratie. Et en fait, c'est surtout le remerciement qu'on peut leur faire pour leur rôle dans l'adoption de la loi organique sur les lois de finances, autrement appelée la LOLF, et il faut bien s'habituer aux sigles. Il y aura une académie des sigles un jour. Mais le LOLF, c'est pas facile d'ailleurs, même chez Berlitz. que l'on a hérité donc d'une étude parfaitement conforme, d'ailleurs, aux intentions de notre regretté confrère Édouard Bonnefous. Et je remercie, nous félicitons les deux lauréats ici présents qui nous font l'honneur de leur présence, à la fois à titre de lauréat, puis à titre de personnalité au premier rang, de ce travail et qui, au cours des travaux, tant de l'Assemblée que du Sénat, ont montré la force même de leur activité politique. La LOLF incite à mettre en place une gestion plus démocratique et plus performante, dont les effets se feront sentir très rapidement et seront profitables à tous, citoyens, usagers du service public, contribuables et agents d'État. On peut ajouter, au fond, que c'est un moyen de répondre à cette question éternelle. Faut-il choisir de bons hommes politiques ou faut-il soumettre les hommes politiques à de bonnes règles de conduite ? C'est une alternative, mais il vaut mieux cumuler les exigences et l'œuvre de nos deux lauréats ici présents, l'un à côté de l'autre, méritent bien qu'on leur demande, en plus de leur œuvre, de se lever et puis aux autres de les applaudir. Dans la ligne des grands prix, il en est un certain nombre, au fond, dont l'objet même est assez commun, et l'on voit une série qui n'est pas irrationnelle, relative à des œuvres qui marquent bien un regard au-delà des frontières, au-delà, comme le disait un homme politique, de ces cicatrices que laisse l'histoire. Les grands prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise sont attribués respectivement au Centre of Taiwan Studies de l'Université de Londres, dirigé par les professeurs Robert Ash et David Fell, et à Alain Jalado, directeur artistique du Festival des Trois Continents de Nantes, pour leur rôle dans une meilleure connaissance en Europe de la culture de Taïwan. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever. Encore dans une perspective dépassant le cadre des frontières, le prix Daniel Strasser est attribué à Jacques Santerre, ancien président de la Commission européenne pour l'ensemble de sa carrière. Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sous la coupole, où au mois de mars dernier, vous assistiez à l'installation comme associé étranger de notre confrère Jean-Claude Juncker, votre successeur en tant que Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg. Puis-je me permettre de vous demander... Le regard sur l'étranger, importation, exportation, import-export, concerne aussi l'immigration de population. Et le prix Lucien Dupont, dans cette vision, a été attribué à Maxime Tandonnet pour son ouvrage « Immigration, sortir du chaos » Flammarion 2006. Votre livre est un livre salutaire comme le sont tous ceux qui, par-delà les approximations et les mensonges, tentent de lier à nouveau entre les fils de la vérité. Vous rectifiez des chiffres couramment admis et vous démontrez comment la politique française a rompu à la fois avec la tradition républicaine et la pratique courante en laissant se brouiller peu à peu le clivage fondamental qui existe entre immigration légale et immigration irrégulière. Nous formons le vœu que vos fonctions actuelles auprès du président de la République vous permettent de faire prospérer les vérités que vous avez si bien établies. Merci. La prudence avec laquelle vous avez hésité à vous lever illustre bien la qualité qui vous concerne. Je demande, le prix Louis Cros, qui représente les travaux savants ou des témoignages dans le domaine de l'éducation, est partagé cette année entre Ludivine Tiao Po-un pour l'État démocratique et ses dilemmes, le cas des universités, sujet récurrent par les temps qui courent, et pour lequel, justement, elle-même et aussi Sylvain Grandserre pour École. Droit de réponse, lettre d'un jeune maître d'école, Hachette 2007, nous fournissent aussi aujourd'hui le plaisir de les féliciter. S'ils savaient l'obligeance de se lever. Au fond, je remercie les organisateurs. Je devrais me tourner de ce côté-là, puisqu'il y a un sens des aiguilles d'une montre qui va nous montrer la facile démonstration de ses qualités. Trois grands prix juridiques ont été attribués à l'initiative de la section de législation et de jurisprudence. Trois grands prix qui méritent donc d'être envisagés dans l'ordre suivant. Tout d'abord, le Grand Prix Choukri Kardahi, qui est partagé à part égale entre trois lauréats. Ça fait donc en réalité un peu plus que trois, ça fait cinq. Cinq lauréats, à part égale entre trois lauréats pour la publication de leur thèse de doctorat. L'une de Paris 1, l'autre de Paris 2. Il n'y a pas de jaloux. Peut-être du côté de Paris 10, Paris 13, Paris 45... comme il y a des comptes de chèques postaux. La thèse de M. Frédéric Danos, propriété, possession et opposabilité, thèse soutenue le 23 mai 2006 à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, est une thèse de très grande qualité qui renouvelle profondément l'analyse des droits réels, et ceci dans un contexte où nous devons bien comprendre que le monde de l'irrationnel a pénétré dans la culture juridique, que la notion de possession par rapport à détention de propriété, dans toutes les formes qu'elle revêt, est ici au cœur d'une réflexion, y compris sur l'opposabilité. Je vous fais grâce de vous dire qu'il ne s'agit en aucune manière du logement opposable, un mot curieux qui a semé dans la communauté du juriste une perturbation très grande, mais les juristes ne sont pas là pour échapper à l'angoisse contemporaine. Ce sont les non-juristes qui vivent comme si le droit n'existait pas et par conséquent comme des gens heureux. L'autre prix, c'est celui accordé à un lauréat de l'Université de Paris 2, Thomas Piazzone. Remarquable thèse sur la sécurité juridique, thèse soutenue en 2006, à l'université Panthéon-Assas, thèse de grande qualité qui mérite elle aussi d'être louée, d'autant plus que la sécurité juridique, plus on en parle, moins il y en a, et que c'est parce qu'il y a de l'insécurité qu'on parle de la sécurité, tout comme l'on aménage les règles de simplification du droit qui entraînent dans leur sillage un nouveau droit, le droit de la simplification du droit. Quoi qu'il en soit, c'est encore pour faire plaisir au Conseil constitutionnel, aux objectifs de valeur constitutionnelle ou de valeur inconstitutionnelle que la thèse de M. Piazzone mérite aujourd'hui toutes nos félicitations. La deuxième, dans cet ordre des grands prix des sections et de la section juridique, il faut citer aussi le prix Francis Durieux qui a été attribué à deux auteurs, Pierre Bonassis et Christian Scapel, pour leur droit maritime. C'est un ouvrage de très grande qualité, sur une matière toujours passionnante. C'est cette plus vieille des matières du droit commercial, celle du droit maritime. Le commerce a commencé par la mer, il a commencé à Rhodes et avec les Phéniciens. Et aujourd'hui, on se préoccupe de savoir, puisque le droit aérien a imité le droit maritime, ce qu'on doit faire dans la situation des aéroglisseurs. Cela permet aux juristes d'entretenir la discussion entre eux et, par conséquent, de souffrir de ces innovations. Le droit aérien a imité le droit maritime et le droit des aéroglisseurs est embarrassé parce qu'il ne sait pas si c'est de l'air ou de la mer. Entre les deux, choisissez, vous ferez très bien. Cet ouvrage est considérable, il comble des matières, et d'ailleurs il se situe dans le fil de ce qu'un autre, un ancien membre de notre académie avait écrit dans le grand fait de sa carrière, c'est Georges Ripert, qui en droit maritime avait rempli un rôle qui est demeuré mémorable. Ce n'est plus le prêt à la grande aventure qui anime la réflexion des auteurs, c'est plutôt le choc des pétroliers dans les lieux de grand transit maritime. Troisième source aussi, c'est cette fois le Grand Prix Charles-Aubert Droit qui est attribué à Catherine Lecomte pour l'ensemble de son œuvre et de son action. C'est une œuvre très importante, c'est une œuvre d'historienne, et je vais donc demander à tous ces auteurs, Thomas Piazzon, Laurent Eck, Frédéric Danos, de bien vouloir se lever. J'ai oublié de parler de la thèse de Laurent Eck sur l'abus du droit en droit constitutionnel, qui elle aussi, publiée et soutenue à l'Université de Lyon 3, a montré la place aussi du droit constitutionnel dans la constitutionnalisation de notre vie juridique en France et même hors de France, et qui a en la matière défriché un monde nouveau avec une grande qualité d'expression. À tous ces auteurs, je demande donc Pierre Benassis, Capelle, s'ajoutant aux autres, de bien vouloir dans la file indienne qui est là, et le tour des aiguilles d'une montre, de bien vouloir. Allez, Benassis, 50, il y a 50 ans. Pardonnez-moi, mesdames, messieurs, de saluer particulièrement Pierre Benassis, car il nous est arrivé, il y a exactement 50 ans, une singulière aventure de passer le cap de l'agrégation de droit privé et de sciences criminelles. Nous n'avons fait ni l'un ni l'autre des sciences criminelles, mais maintenant qu'il y a la criminologie, nous sommes tranquilles. Il a quitté la région parisienne pour Aix-en-Provence. J'ai pas pu quitter la région parisienne. Ceci, ce sont des confidences de vieils académiciens, passez-les-moi. Des grands prix d'histoire aussi. Mais je voudrais montrer que j'ai déjà parlé de l'histoire, puisque, au fond, la thèse, le prix de Madame Catherine Lecomte est aussi un prix qui arrive d'entre les mains d'une historienne, mais il y a de bien autres prix d'histoire, des grands prix d'histoire, qui sont importants et méritent de nous retenir un instant. Le Grand Prix Charles Aubert, pour toute l'œuvre d'Éric Roussel en la matière. Nul n'ignore la puissance de cet auteur, l'étendue de ses connaissances et de ses travaux. Et nous avons donc le plaisir de le couronner. Le Grand Prix Madeleine-Lorrain-Portemer est un Grand Prix qui, comme cela arrive parfois à des Grands Prix, est partagé et divisé entre deux lauréats. D'un côté, Jean-Marc Morisseau pour son étude d'histoire du méchant loup, 3000 attaques sur l'homme en France, 15e, 20e siècle. C'est la moitié du prix. Et l'autre moitié est accordée à monsieur Ivan Loskutov pour Rome des Césars, Rome des Papes, la propagande du cardinal Mazarin. Alors, bien sûr, l'esprit vagabonde, et tout en accordant ces deux prix, on se dit, en quoi le cardinal Mazarin, qui d'une certaine manière nous abrite aujourd'hui, dont le cénotaphe est à ma gauche, peut être considéré comme un bon ou comme un méchant loup. Je demande au lauréat de vouloir se lever, Éric Roussel, Jean-Marc Morisseau, à votre tour. Les grands prix d'économie sont distribués grâce à la générosité de la baronne Maruccia Zirilli Marinmo, exemplaire par sa fidélité à notre académie et à la mémoire de son époux qui fut un de nos correspondants. Nous l'en remercions. Le prix Zirilli Marinmo est attribué à Henri Prévost pour son ouvrage « Trop de pétrole », Seuil 2007, et le prix Hugo Papy Gaston Leduc est attribué à François de Closet pour son ouvrage « Plus encore ». Trop pour l'un, plus pour l'autre. Ah, voilà les économistes rassurants. Ils peuvent donc demander aux lauréats de se lever. Nous en arrivons au prix davantage reconnu, accordé au titre des diverses sections de l'Académie. Et, absente jusqu'à présent, la section de philosophie se rattrape. Le prix d'Agnan Bouvray est attribué à Pierre-Henri Castel pour son ouvrage « À quoi résiste la psychanalyse ?» Superbe sujet. Nous savons que nous ne résistons pas, mais nous ne savons pas à quoi elle résiste. Et c'est la réponse à cette seconde question qui a fait l'objet de cette étude aujourd'hui couronnée. De l'autre côté, Hegel, système et structure théologique, théologie et psychanalyse font peut-être bon ménage. Hegel, système et structure théologique, c'est le prix Guénière attribué à Jean-Louis Vieillard-Baron pour son ouvrage aux éditions de Minuit. Il y a deux autres ouvrages qui sont primés par la section de philosophie. L'un, prix Robert Blanchet, qui est attribué à Denis Thouars pour son ouvrage « Le partage des idées, étude sur la forme de la philosophie ». Et le prix Bordin, attribué à Frédéric Gros pour son ouvrage « État de violence, essai sur la fin de la guerre ». Le partage d'un côté, la violence de l'autre, et il y a encore, par le hasard des circonstances, des sujets qui se font écho. Et d'ailleurs, le problème de la guerre ne sera pas abandonné, comme on va le voir à l'instant. Sur la proposition de la section de morale et de sociologie, l'on retrouve un prix d'histoire. Les historiens se sont bien servis, mais c'est une bonne chose, parce que cela signifie la vitalité de leur discipline de pensée, puisque le prix Louis Marin est attribué à Ramin Kamran et à Frédéric Tellier pour leur ouvrage « On a oublié l'Iran, un totalitarisme du XXe siècle », Flammarion 2007. Et d'autre part, toujours au fond, par rapport à ce que peut-être la violence ou la guerre que l'on retrouve ici, le prix Joseph Sayer attribué à Nicolas Beaupré pour « Écrire en guerre, écrire la guerre, France-Allemagne 1914-1920 », CNRS édition 2006. J'ajouterai à ces prix le prix Grammaticatis Neumann attribué à Emmanuel Plot pour son ouvrage « Quelle organisation pour la maîtrise des risques industriels majeurs ?» et d'autre part le prix du docteur Carrière attribué à Paolo Grossi, attaché culturel auprès de l'Institut italien de culture de Paris pour sa monographie sur notre confrère du directoire, Pierre-Louis Guinguenet. Et là encore, on attendait la présence de Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République italienne. Il est quand même bien fidèle à notre esprit. Et c'est par l'évocation de son nom que je vous demande de féliciter les divers auteurs dont j'ai parlé et aussi pour écrire, pour féliciter, si je ne l'ai déjà dit, le prix. L'attribution du prix Joseph Sayer à Nicolas Beaupré pour écrire en guerre, décrire la guerre, France-Allemagne 1914-1920. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever, suivant l'exemple. Sur la proposition de la section de législation, droit public et jurisprudence, plusieurs prix sont attribués, 4 au total. Le prix Cassin est attribué à Pierre Capoulade ainsi qu'à titre posthume à 2 professeurs de droit qui ont exercé une influence décisive dans le droit de la copropriété, François Givors et Claude Giverdon, tous les deux professeurs successivement à Grenoble, qui ont en la matière remplit un rôle important pour l'explication de cette situation parfaitement irrationnelle et parfaitement génératrice de troubles inventée par l'esprit humain, qui est la copropriété entre immeubles divisés par étages ou appartements. Il fallait vraiment une certaine ingéniosité sadique pour inventer de tels mécanismes, d'autant que l'on sait à la lecture de ces ouvrages qu'il y a toujours dans toute copropriété un empoisonneur public. La copropriété, un grand ouvrage, il n'y a pas longtemps que Giverdan est décédé, et on ne peut que penser à lui aussi. C'est la Corporation des professeurs de droit qui, sur ce point, décidément tire la couverture. Le prix Dupin aîné est attribué à Rana Chaban pour la caducité des actes juridiques études de droit civil. S'il est bien un sujet qui est porté à son paroxysme, la distinction des civilistes sur la formation des actes juridiques, c'est bien celui-là. Et les notaires, quelques-uns sont ici présents, savent bien l'exemple que l'on donne toujours à des étudiants. Voici deux époux qui ont été devant le notaire, deux futurs époux pour conclure un contrat de mariage. Et puis ensuite, il y en a un qui change d'avis et qui ne se marie plus, le mariage n'a plus lieu. Que devient ce contrat? Après tout, ils vont peut-être se marier 6 ans plus tard. 6 ans, c'est le délai après lequel les époux souvent sont en turbulence conjugale. Eh bien, cela, ils se marient au bout de 6 ans, comme les concubins aujourd'hui, qui sentent qu'il y a une turbulence et qui se marient à l'époque exactement où les autres divorcent. Allez-y, vous y retrouvez. Et en fait, le prix du pain aîné, donc, à Rana Chaban, je n'y reviens pas, le prix Wolofsky est attribué à Emmanuel Cartier pour la transition constitutionnelle en France 1940-1945, la reconstruction révolutionnaire d'un ordre juridique républicain. C'est une période de notre histoire qui est particulière et pour laquelle, véritablement, maintenant que le temps a passé, les analyses scientifiques, les travaux de cette nature réveillent et encourage l'analyse et la probité intellectuelle des auteurs. Ce prix est attribué à Emmanuel Cartier. Le prix Limantour est attribué à Hervé Levers pour l'invention du barreau français, 1660-1830, la construction nationale d'un groupe professionnel. 1660-1830, la tranche est importante et c'est aussi pendant cette époque il y eut quelques turbulences à la fin du XVIIIe siècle, la construction d'un groupe professionnel avant que tout cela ne devienne des ordres ou des barreaux est aussi un ouvrage de très grande qualité qui méritait justement le prix Libantour et qui permet à son auteur de se joindre à ceux qui vont bien vouloir se lever un instant pour qu'on les applaudisse. Les prix attribués sur la proposition de la section d'économie, économie politique, statistique et finances, sont au nombre de 2. La médaille Villermé, Fondation Lucien Dupont, est attribuée au groupe de recherche Carmonde, partenaire et Carmonde Université, représenté par Claude Ferrand, directeur du programme pour les travaux publiés aux éditions Carmonde sous les titres Le croisement des savoirs, le croisement des pratiques. Et le prix Rossi est attribué à Augustin Landier et à David Tesmar, pour le grand méchant marché. Ce n'est plus le méchant loup, c'est le méchant marché, et je demande à ces lauréats de bien vouloir se lever. Si l'on essaye de discerner, parmi les nombreux prix distribués et attribués sur proposition de la section histoire et géographie, et si l'on met de côté le prix Jean Saint-Denis attribué à Philippe Fray pour 50 degrés des airs brûlants, il faut voir qu'il y a peut-être un fil conducteur que je laisse aujourd'hui aux auditeurs et aux participants à cette séance solennelle le soin de retrouver la trame. Ben, je mettrai en premier de ces ouvrages, de ces travaux, le prix Gustave Chez des Anges, qui est attribué à Jacques Lacroix pour ses 3 volumes consacrés aux noms d'origine gauloise, dont le dernier tome, La Gaule des dieux, est paru chez Errance en 2007. Je placerai en deuxième position le prix L'Odyssée de Pénorin, attribué à Jean-Marie Le Gall pour le mythe de Saint-Denis entre Renaissance et Révolution. Déjà, le temps a passé, un certain nombre de siècles. Vient en troisième position le prix Jacques Flach, attribué à François Higersheim pour l'Alsace et ses historiens 1680-1914, la fabrique des monuments. Quatrième position, on avance. Et maintenant, on se retrouve avec le prix Georges Mauguin attribué à Odette Dossio-Prala pour sa biographie de Michel Regnault de Saint-Jean d'Angély, serviteur fidèle de Napoléon. Notre confrère Jean Tullard doit être très content. Cinquièmement, le prix Drouin de Luys est attribué à Yannick Marek pour pauvreté et protection sociale au XIXe et XXe siècle, des expériences rouennaises aux politiques nationales. Le prix Paul-Michel Perret est attribué à Henri Doyy pour Syrie 1941, la guerre occultée vichyste contre gaulliste. Et les autres prix, c'est le septième que j'avais mis, le prix Marcel Flack, attribué à Robert Stegmann pour Struthof, et la nébuleuse concentrationnaire des deux côtés du Rhin 1941-1945. Le prix Maurice Travers est attribué à Maurice Weiss pour la direction de l'ouvrage collectif De Gaulle et la Russie. Le prix Joseph Dutheil est attribué à Jean-Louis Thieriot pour son Margaret Thatcher, de l'épicerie à la Chambre des Lords. Vous voyez qu'il y a un fil conducteur depuis la période gauloise jusqu'à la période Thatcher. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'ouvrage qui prolongerait cette analyse et ce fil de l'histoire qui pourtant nous tient vraiment en haleine. Des commissions mixtes sont prévues pour le cas où il y a des ouvrages qui relèvent tout aussi bien de plusieurs sections de l'Académie. Et à ce titre, trois commissions ont retenu un certain nombre de noms. La commission mixte numéro 1 a retenu notamment le prix Carlier attribué à Paul Bauer pour deux siècles d'histoire au Père Lachaise, mémoire et documents 2006. Moyennant quoi, le prix suivant, c'est le prix Jean Finot, qui est attribué à Isabelle Bolzing-Lowen, pardonnez-moi si cette prononciation n'est pas exactement conforme aux usages, et après le Père Lachaise, ici, c'est l'hécatombe des fous, la famine dans les hôpitaux psychiatriques français sous l'occupation. Troisièmement, la bourse Marcel Blum est attribuée à Isabelle Collet pour l'informatique a-t-elle un sexe ? C'est très intéressant et effectivement, là encore, on apprend beaucoup et véritablement, Hackers, mythe et réalité, c'est un ouvrage qui véritablement est à citer et à honorer. Je demande à tous ces lauréats, si j'en ai pas oublié, de bien vouloir se lever. J'ajouterai aussi un des prix dans cette collection, un prix qui a été attribué à Dominique Théré pour les questions du droit, un ouvrage publié au PUF en 2007 et qui a aussi le mérite de renouveler profondément les matières du droit, dans la procéduralisation du droit, dans la constitutionnalisation du droit et dans divers autres secteurs qui ouvrent pour longtemps aussi, je le pense, l'horizon des réflexions novatrices. Je demande à ces lauréats de bien vouloir se lever. Prix attribué sur la proposition de la commission mixte 2. Le prix de la fondation Araxis Torossian est attribué à Alessandra Pozzo pour la publication de sa thèse La glossolalie dans la culture occidentale, soutenue à l'École des hautes études en sciences sociales en 2006. Alors, glossolalie, cela mérite peut-être une explication que l'on trouve aisément reproduite à la lecture de ce bel ouvrage. C'est l'élocution confuse, improvisée, non articulée, en mots qui, de ce qui n'est pas une langue, et ne possède ni lexique ni syntaxe. La glossolalie est une branche du savoir qui analyse notamment le langage spirit ou le langage ludique, dans des conditions très renouvelées qui mettent place à l'ouvrage en question dans le droit fil des travaux du XXe siècle sur la sémiotique ou la sébiologie. Le prix Henri Texier II est attribué à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, représentée par Paul Albrecht et Jacques Bonafont pour l'ensemble de son action. Le prix Henri Texier I est attribué à la thèse d'Olivier Lebeau, le référé Liberté fondamentale, contribution à l'étude de l'article L521-2 du Code de justice administrative. Vous voyez qu'il y a un peu de côté un petit peu hétéroclite dans ces prix, mais cela correspond bien au souci de permettre une certaine rencontre des savoirs. Et c'est aussi le prix Jules et Louis Jean Bernat et Barthélemy de Ferrari Doria est attribué à Marc Beninchy pour Vichy et l'ordre moral. Vous voyez, on retrouve là une espèce d'arabesque où l'histoire même de cette période troublée revient par les divers canaux possibles des récompenses accordées. Le prix Eugène Salvant est attribué à la Fédération SOS Amitié France pour l'ensemble de son action. Et cette médaille, nous la dédions à tous les écoutants bénévoles, ce qu'on appelle les écoutants qui viennent justement aider les non-entendants, qui par le dévouement sauvent des vies et atténuent les souffrances. Et je remercie leur présence ici, ce soir, cet après-midi plutôt parmi eux. Je remercie Daniel Boisset, Michel Calmels, Jean-Claude Delerme, Sylvie Galardon, Muriel Joffre et Jean-Nicolas Maury, responsables passés et actuels de cette si belle association, et je leur demande de transmettre à tous nos encouragements. Le prix Lucien Drenac est attribué à Raymond Boutin pour la population de la Guadeloupe, de l'émancipation à l'assimilation 1848-1946, publié chez l'éditeur guyanais Libis Rouge en 2006. Je remercie particulièrement, au nom de l'Académie, l'auteur, M. Boutin, qui est professeur à Basse-Terre, d'avoir fait le voyage depuis la Guadeloupe pour recueillir ici les lauriers que mérite son œuvre remarquable. Si vous vouliez bien, les uns et les autres, maintenant vous lever pour que nous vous reconnaissions. La commission mixte 3. Le prix Durand-Réville, Luc Durand-Réville, est attribué à l'Association Droit et Économie de la Santé en Afrique pour son action en faveur de la formation des cadres intermédiaires africains. Là encore, on voit bien des transitions de commission à commission. Et le prix Émile Girardot, attribué à Paul Boucher pour la publication de sa traduction des Casibus Perplexis Injurae de Leibniz. Et les juristes sont au passage très contents, parce que Leibniz en tant que juriste n'est généralement pas bien connu, bien que ce soit son activité de juriste qui lui ait permis de gagner sa vie comme conseiller juridique des princes. Et tout ce qu'il a écrit est à peine traduit, écrit en latin, et chaque fois qu'on traduit un de ses ouvrages, on est, grâce à Paul Boucher, passionné et ébloui par la supériorité intellectuelle de ce juriste parmi nous. Des casibus perplexes, les cas perplexes, c'est la vie du juriste. S'il n'y avait pas de cas perplexes, il n'y aurait plus de juriste. Le prix du général Muteau est attribué à l'amiral Émile Chaline pour la direction de la publication de l'historique des forces navales françaises libres en 5 tomes, paru entre 1989 et 2006. Vous voyez, on retrouve encore l'arabesque de toute une période, de toute une époque de notre histoire. Le prix Corbet, attribué à Antoine Champeau pour Michelin et l'aviation, 1896-1945, patriotisme industriel et innovation. Le prix Torlet est attribué à Gérard Donadieu pour les religions au risque des sciences humaines. Le prix Ernest Lémonon est attribué à Thierry Saint-Jouran pour la direction du dictionnaire de la Chine contemporaine. Vous voyez, c'est pas le prix de Taïwan, mais... Et le prix Malouet est attribué à François Monnier et Guy Tuillier pour Administration, Vérité et Fiction. Je demande à ces lauréats de nous montrer leur visage. J'arrive à la fin de ce palmarès, mais il y a encore quelques deux, trois pages. Le prix attribué sur proposition de jury particulier ou du bureau de l'Académie. Le prix Pierre-Georges Castex de littérature française est attribué pour l'ensemble de son œuvre à Philippe Sellier, professeur émérite de littérature française à Paris 4, à l'Université Paris 4. L'un des meilleurs connaisseurs de la littérature française du XVIIe, de Pascal en particulier, de la vie de notre confrère Jean Ménard. C'est peu dit. Le prix Edmond Fréville est attribué à Marc Desfourneaux pour Force des armes, Force des hommes, l'Armaton 2005. Je ne saurais manquer, en annonçant ce prix, je lis mais je pense, de rappeler donc ici la mémoire de notre confrère Pierre Messmer, car c'est lui qui a rénové cet ancien prix en le dotant et en lui donnant une orientation tournée vers les pratiques et les problèmes stratégiques contemporains. Il présidait cette année, encore et pour la dernière fois, le jury chargé de proposer un lauréat à notre compagnie. Tous ceux qui ont pu assister à la grandiose cérémonie qui s'est tenue aux Invalides ne peuvent pas, à ce moment même, ne pas lui exprimer une fois de plus leur gratitude. Mais c'est d'abord Marc Desfourneaux qui est le lauréat et qu'il y a lieu aussi de féliciter. Le prix de l'essai franco-allemand est attribué à Grégory Dufour pour la publication d'Apprendre l'allemand tout au long de sa vie, l'exemple de la Lorraine, région frontalière. On dirait qu'il s'agit des princes lorrains. Barès n'est peut-être pas loin, mais le prix est proche. Il est d'aujourd'hui. La grande médaille d'honneur de l'amitié franco-allemande pour la construction européenne est attribuée à Edmond Stoiber pour le développement des échanges franco-bavarois lorsqu'il était ministre-président de Bavière. Le prix Comte Josserand de Saint-Prié d'Urgel est attribué à Henri Verradier et Daniel Verba pour leur ouvrage « Les récompenses des diocèses de France », premier ouvrage paru de la maison d'édition « Histoire et curiosité phaléristique ». Le prix Bernard d'Estrébon est attribué à Brice Panel, spécialiste du 400 mètres, qu'il court en 45 secondes, 54, et par conséquent, sans dopage. Et son ouvrage est très remarquable aussi. Et nous souhaitons, comme il le souhaite lui-même, qu'il puisse terminer brillamment ses études et qu'il s'illustre l'an prochain aux Jeux Olympiques. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever. Il me reste quatre récompenses à indiquer. Le prix Claude Berthaud est attribué à Nicolas Mariot pour Bain de foule, les voyages présidentiels en province, 1888-2002. Lecture fort intéressante. Et on se dit qu'un jour, il serait concevable que Nicolas Mariot, mais il faudra le lui demander tout à l'heure, en échange de son diplôme, s'il pourrait pas, dans un autre temps, poursuivre son étude sur les voyages présidentiels en province ou à l'étranger, de 2002 à 2008. Et il pourrait y avoir là quelques éléments aussi. Son livre est passionnant. Il voyageait moins, il voyageait différemment. Le train plutôt que l'avion, parfois même le bateau, le navire. Le prix de la fondation du chanoine Delpeuch est attribué à Bernard Berthaud, heureux rénovateur du musée de Fourvière à Lyon, pour l'ensemble de son œuvre et de son action en faveur du patrimoine religieux, en particulier en faveur de la connaissance des arts liturgiques. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever. Enfin, et pour finir, certaines fondations ne distribuent pas de prix, mais œuvrent sur le terrain à l'amélioration de l'organisation de notre société. Tel est le cas pour la Fondation pour le progrès en éducation, créée et animée par Sylvaine Marandon, ainsi que pour la Fondation pour l'avenir de la relation sociale, œuvre d'André Lévesque. Il ne m'est pas indiqué, mais s'ils sont là, s'il pouvait se lever, mais je ne crois pas, d'après le document qui a été préparé à mon attention, que ce soit le cas. Et ainsi, j'ajouterai que l'Académie distribue aussi des aides sociales, conformément aux vœux de généreux philanthropes sur les revenus, en particulier des fondations d'Aigremont, Schlumberger et Carnot. Je renouvelle donc ici les félicitations à tous ces lauréats, et je les remercie au nom de l'Académie de contribuer chacun à la place qui est la sienne au progrès de la connaissance, au mieux-être de tous, ainsi qu'à la gloire de notre nation et de notre culture. Et pour finir, essayant de me livrer à une espèce de synthèse de tout cela, essayant de discerner ce qu'il y a de commun derrière et à travers les particularités de chacune de ces œuvres, eh bien, je discerne quand même au moins deux, sinon trois, constante. Sinon, constante, du moins dominante. La première a trait au passé. Ce qui frappe dans l'ensemble de ces travaux, et pas seulement ces travaux de la section d'histoire, c'est l'importance d'une compréhension élargie du donné et des données de l'histoire. Une meilleure connaissance, une amélioration de la connaissance du passé, j'y suis déjà revenu, et un passé ou lointain ou récent. Merci aussi à tous, et c'est la seconde constante, de voir que, à travers toutes ces récompenses, à travers et par ces prix, c'est souvent à travers une communication des savoirs que se manifeste l'orientation des travaux des sciences morales et politiques, largement entendues. Et c'est aussi le présent qui est ici très net et très fondamental dans ces travaux. Vous voyez, la compréhension accrue de l'histoire, la conscience plus accrue encore des transversales du savoir et de la science. Alors l'avenir, mais l'avenir, notre président l'indiquait déjà tout à l'heure, c'est autour même de l'idée de prévention. D'aucuns aussi parlent de précaution, mais prévention et précaution, c'est pas la même chose. Et cette idée de prévention que la meilleure connaissance du savoir et de la culture oriente certainement, quant à l'avenir, l'évolution de la pensée et de la culture française. Quant à l'avenir, encore plus à court terme, il va consister pour les lauréats à se rendre à la séance de remise des médailles et des diplômes dans la bibliothèque de l'Institut tout à l'heure, où le président de notre académie procédera à cette remise. C'est à lui que, mission accomplie, je lui rends maintenant la parole.
Merci, cher confrère. Eh bien, la parole qui m'est rendue, je la donne à Monsieur Michel Albert, notre secrétaire perpétuel.
Merci, Monsieur le Président. Mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis, voici tout juste 10 ans. En novembre 1997, au cours de la séance solennelle annuelle de notre Académie, ici même, sous cette coupole où nous sommes réunis, et à cette place que j'ai le grand honneur d'occuper à sa suite, Pierre Messmer achevait son discours par ces mots. Lorsque ma voix cessera de retentir sous cette voûte et que mes paroles iront rejoindre le passé avec celles des autres secrétaires perpétuels, il demeurera quelque chose, comme un murmure dans le silence, le souffle d'un esprit qui, depuis 165 ans, veille et anime notre Académie. Pierre Messmer nous a quittés le 29 août dernier. Celui qui fut notre secrétaire perpétuel avant de devenir chancelier de l'Institut tenait parmi nous trop de place pour que notre peine puisse rester muette. Sa disparition, au moment même et sur le lieu même où étaient célébrées les obsèques de notre confrère Raymond Barre, a rendu plus cruelle encore l'épreuve de notre Académie qui, comme le disait le président tout à l'heure, entre les mois de février et d'août 2007, a perdu 5 de ses membres. Chacun à sa manière, nos confrères disparus avaient intensément voué leur vie à la formation des hommes, à la vérité de l'histoire et à la grandeur de la France. Au début de cette année, Raymond Barre et Pierre Messmer, tous deux anciens premiers ministres, avaient signé pour la première fois ensemble un texte que l'on peut qualifier de testamentaire et qui figure en tête du livre publié par notre Académie sous le titre « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse ». Ils y déclaraient « Les aînés que nous sommes en appellent à l'intelligence et à la conscience de chacun pour que nos jeunes voient s'ouvrir devant eux un avenir meilleur. Notre compagnie retiendra que si peu de temps avec leur disparition, les deux anciens premiers ministres qui siégeaient parmi nous ont tenu à s'associer à l'élaboration et à la rédaction d'un ouvrage qui illustre de manière particulièrement frappante la mission de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est l'actualité de cette mission que je me propose d'évoquer devant vous en reprenant le titre même que Pierre Messmer avait choisi il y a 10 ans, actualité de la vie académique, et en présentant tour à tour les travaux que nous avons conduits cette année, les messages que nous souhaitons faire entendre et les perspectives qui s'ouvrent devant nous. Les sciences morales et politiques associent tout ce qui a trait au comportement de l'homme, individuellement et en société, dans ses mœurs comme dans l'organisation de la cité. Suivant son mode de travail actuel, l'Académie fait porter ses séances ordinaires et publiques, du lundi, année après année, sur un thème précis. Cette année, comme nous l'avons vu, sous la présidence du président Lucien Israël, nous aurons entendu une 30aine de communications sur le thème santé, médecine, société, ce qui nous a permis d'ausculter notre système de santé pour en diagnostiquer les faiblesses afin de suggérer des remèdes. Le président Israël était le mieux placé pour organiser une pareille consultation. Faut-il rappeler, je vous demande pardon, président, dû votre modestie en pâtir, qu'il a eu l'immense mérite d'avoir été le premier au monde, envers et contre tous, à introduire dans le traitement des tumeurs malignes la polychimiothérapie, aujourd'hui universellement adoptée. Toutes les communications prononcées devant notre Académie font l'objet d'une retransmission par France Culture durant l'été. En outre, notre thème d'étude a inspiré de nouvelles initiatives à la direction de Canal Académie, cette radio sur Internet que dirige notre confrère Jean Cluzel avec autant de talent que de dévouement, et par laquelle il est devenu le grand communicateur des travaux et des propos de ses confrères de tout l'Institut. Dans une démarche convergente avec celle du président Israël, mais axée sur le droit, notre confrère Roland Drago a constitué un groupe d'experts qui travaille sur le rôle des agences administratives indépendantes, particulièrement dans le domaine de la santé. La réflexion menée, nourrie des grands principes du droit, débouchera sur des propositions de réforme adressées au pouvoir public. C'est dans la même intention que notre vice-président François Théré, qui sera président l'année prochaine, a réuni d'éminents juristes pour travailler sur le droit européen des contrats, droit complexe dont le caractère hétérogène est source de difficultés multiples pour les entreprises. Le souci de François Théré ne se limite d'ailleurs pas à l'Europe. Il a en effet constitué un deuxième groupe de travail qui se penche sur le droit chinois, édifice monumental que l'irruption de la Chine sur la scène internationale ne permet plus d'ignorer. De son côté, notre confrère Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, réunit actuellement un groupe de réflexion sur le thème de l'intérêt général. L'approche sera politique, juridique, économique, sociologique et philosophique, conformément à notre vocation pluridisciplinaire. C'est dans la fidélité aux mêmes principes fondateurs de notre économie que nous avons publié cette année les actes du colloque sur l'erreur, où sont exprimés les points de vue de juristes, de philosophes, d'économistes et d'historiens. Organisé à l'initiative de Jean Foyer, ce colloque a réuni Raymond Barre, Roland Dragot, Pierre Mazeaud, Bertrand Saint-Sernin, François Théré et Jean Tullard. Jean Foyer a introduit ce colloque sur l'erreur par quelques mots qui m'ont tellement frappé que j'ai vraiment envie de vous les citer. Il dit « Les trois composantes essentielles de la civilisation occidentale procèdent d'une condamnation erronée, d'une erreur judiciaire. La philosophie grecque procède de la condamnation de Socrate, le christianisme de la condamnation de Jésus, la science positive de celle de Galilée. » Et Jean Tullard, quant à lui, termine sa communication d'historien par ce profond trait d'esprit: la marge d'erreur de l'historien est plus grande que celle du savant. Du moins a-t-il une consolation, c'est d'avoir à rectifier les erreurs de ses prédécesseurs. C'est pourquoi il y aura toujours des historiens. En étroite collaboration avec nos confrères de l'Académie des sciences, notre compagnie a organisé en septembre dernier, sous la présidence de Bertrand Saint-Sernin, un colloque très substantiel à l'occasion du centenaire de l'évolution créatrice, texte décisif dans l'œuvre de Henri Bergson, qui fut membre de notre Académie pendant 40 années. Les actes, qui réunissent notamment les contributions de nos confrères Gérald Antoine et Bernard Bourgeois, seront prochainement publiés. C'est encore en lien avec l'Académie des sciences que nos confrères Pierre Bauchet et Jean-Claude Berthélémy, franchissant la Méditerranée, ont entamé un fructueux dialogue avec la Tunisie et l'Afrique subsaharienne. Ce travail débouchera bientôt sur des actions de formation de cadres en économie et en droit de la santé. Autre initiative conjointe de notre Académie, cette fois avec le Cercle d'Outre-Manche, le colloque qui se tiendra jeudi prochain, 15 novembre, à la Fondation Simone et Chino del Duca de l'Institut de France. Ce colloque, placé sous la présidence d'Yvon Gattaz, est intitulé « Emploi, virgule, entreprise, deux points, le match France-Angleterre ». En effet, notre partenaire, le Cercle d'Outre-Manche, a été créé par un groupe de Français qui exercent des fonctions de dirigeants d'entreprise en Grande-Bretagne. Cette journée permettra d'échanger des réflexions sur la vie économique dans les deux pays, de présenter des expériences d'entrepreneurs, mais aussi des études sur le dialogue social, le rôle de l'État et les services publics, avec une mention spéciale pour l'emploi des jeunes de part et d'autre de la Manche. Chacun peut le constater, le regard de notre Académie ne se limite pas à l'Hexagone, loin s'en faut, ni même aux pays voisins. Le dialogue culturel avec Taïwan, entrepris depuis 1996, à l'initiative de Pierre Messmer, alors secrétaire perpétuel, se poursuit harmonieusement grâce au concours de Marianne Bastide-Bruguière, notre confrère sinologue, ainsi que ceux de Jean Béchler et d'André Damien. Dans le même esprit de dialogue et d'échange, l'Académie des sciences morales et politiques a organisé début octobre l'un des 46 ateliers du Forum Chine-Europe, conçu et animé par la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme. Durant deux jours, 15 représentants des sociétés civiles européennes et chinoises ont pu débattre dans nos murs sur leurs valeurs éthiques respectives et découvrir que nombre d'entre elles leur étaient communes. Se frotter à l'esprit d'autrui pour mieux se comprendre, voilà un devoir auquel notre Académie ne pourrait se soustraire sans se trahir. C'est ce qui motive son implication dans l'Union académique internationale, regroupant les institutions de 39 pays, et où notre confrère Alain Plantet a lancé une réflexion sur la dignité de la personne humaine. Notre travail de compréhension du monde, qui illustre toutes les initiatives si variées que je viens d'énumérer, serait très incomplet si nous avions omis de réfléchir sur la mondialisation et sur la place que la France peut y tenir. C'est pourquoi l'Académie a tenu à organiser, au début de cette année, un colloque qui avait pour thème « La France et la mondialisation » et dont les actes ont paru aux presses universitaires de France en septembre dernier. Cette réflexion a pour moi valeur d'exemple, car elle illustre notre devoir d'adresser à l'opinion et au pouvoir public des messages forts, clairs et constructifs dans l'intérêt de la France. Raymond Barre a résumé en ces termes les enjeux de ce colloque sur la France et la mondialisation. « Mondialisation, dit-il, signifie adaptation. Adaptation des entreprises, c'est ce à quoi on pense au départ. Adaptation des États, de leur système de gouvernement. Adaptation des individus et, en fin de compte, adaptation des mentalités, ce qui est le plus difficile. » L'ancien Premier ministre soulignait ainsi combien, dans ce domaine, notre pays se singularise dangereusement. Il se singularise d'abord par sa perception de la mondialisation. De nombreux Français, en effet, appréhendent l'avenir avec une sourde inquiétude et voient dans la compétition internationale plutôt un danger qu'une opportunité. La Fondation pour l'innovation politique, créée par Jérôme Monod, a publié récemment une étude portant sur l'appréciation de la mondialisation par les Européens. Cette étude confirme ce qu'avaient révélé plusieurs enquêtes antérieures. Je cite « La France développe une vision plus pessimiste de l'avenir de la société et une appréciation plus critique des effets de la mondialisation que l'ensemble des autres pays. » On peut voir dans cette exception française la peur et donc le rejet de la compétition ouverte, ce qu'une partie des lycéens et étudiants exprime dans le domaine de l'enseignement par le refus de la sélection. Cette peur de se mesurer à autrui, qui engendre la tentation du repli, on l'a vu, avec le référendum sur le projet de Constitution européenne en 2005, s'auto-alimente par la diabolisation de son objet. Ainsi est posée la trompeuse équation qui assimile la mondialisation au capitalisme, communément qualifié chez nous, mais chez nous seulement, d'ultralibéral, le capitalisme aux États-Unis et ces derniers au mal absolu. La mondialisation ne serait rien d'autre que l'impérialisme économique de l'Amérique. Les effets les plus néfastes de ce simplisme anti-mondialisation seraient toutefois limités si celui-ci ne touchait pas les Français à l'âge où ils sont le plus influençables dans les collèges et les lycées. Un article publié par Commentaire, la revue dirigée par notre confrère Jean-Claude Casanova, donne plusieurs exemples frappants de la façon dont la mondialisation est présentée dans certains manuels scolaires. L'un d'entre eux, un manuel d'histoire de 2003 destiné aux élèves de 3e, ouvre un dossier intitulé « Questions pour un nouveau siècle » et que trouve-t-on comme argumentaire sous le titre interrogatif « Quelle mondialisation ?» Nous trouvons une photo prise en novembre 2001 de deux manifestants altermondialistes brandissant des pancartes sur lesquelles on lit côte à côte ces deux slogans « Pour une république mondiale, liberté, égalité, fraternité » et juste à côté « Contre the Bird Company et sa loi du fric ». La réalité, heureusement, est plutôt différente. Ainsi, en 7 années seulement, de 1999 à 2006, le Brésil a connu une augmentation de son produit intérieur brut par habitant de près de 40%, le Mozambique de 50% et le Laos de 60%. Sans parler de la Chine à 100%, ni de l'Inde à plus de 105%. En vérité, la France, quant à elle, n'est point victime de la mondialisation, mais plutôt des mythologies de la mondialisation auxquelles on accorde encore trop souvent crédit avec une obstination funeste. Non, la mondialisation n'a pas aboli le rôle de l'État, et notamment pas aux États-Unis, où le budget militaire est systématiquement utilisé pour soutenir l'effort d'innovation des entreprises. Non, la mondialisation ne se réduit pas à une hégémonie mondiale des États-Unis. Elle a au contraire favorisé, on l'a vu, l'émergence de grands acteurs, au premier rang desquels la Chine et l'Inde, suivis par le Brésil et la Russie. Oui, la mondialisation a enrichi de nouveaux pays, qui sont devenus nos concurrents, certes, mais aussi nos nouveaux débouchés. Dans ce monde concurrentiel, quelle valeur ajoutée permettra de se démarquer sur la scène internationale? De toute évidence, c'est le savoir qui fera la différence. L'économie de la connaissance est devenue le terrain où se jouera la partie. Hier, on pouvait exporter surtout des matières premières. Demain, il faudra exporter de la matière grise. Le libre-échange du XXIe siècle, c'est la compétition intellectuelle et scientifique, les progrès technologiques étant de plus en plus rapides et les emplois requérant de plus en plus de connaissances, la mondialisation de l'intelligence apparaît nettement comme l'enjeu majeur. Cette mondialisation de l'intelligence à laquelle nous assistons, ne la trouve-t-on pas déjà sous une forme prophétique dans ces lignes de l'admirable conclusion des Mémoires d'Outre-Tombe où Chateaubriand écrit « Quand la vapeur, unie au télégraphe, aura fait disparaître les distances, ne sont plus seulement les marchandises qui voyageront, mais encore les idées rendues à l'usage de leurs ailes. » Et c'est vrai, à l'âge de l'Internet, la mondialisation ne fait pas seulement voyager plus librement les marchandises, elle donne des ailes aux idées, ou plutôt, pour reprendre le mot de Chateaubriand, elle les rend à l'usage de leurs ailes. Ainsi, face à la mondialisation, la France a aujourd'hui devant elle un devoir plus impératif, mais aussi plus noble qu'aucun autre, il lui faut investir dans l'intelligence. L'avenir de la jeunesse et l'insertion dans la mondialisation sont étroitement liés, comme l'a montré aussi l'essai que l'Académie a publié en janvier dernier et dont j'ai déjà dit un mot. Il n'est guère possible de bien préparer l'avenir de sa jeunesse sans préparer celle-ci efficacement à la compétition internationale. Il y a là un enjeu que la France se doit impérativement de prendre en considération sous peine d'être rapidement relégué au rang des gloires passées. Des messages tels que celui-là, notre Académie n'a pas manqué d'en formuler depuis 10 ans. Il suffit d'examiner quelques-uns des thèmes qui nous ont occupés ces dernières années pour s'apercevoir que notre compagnie a su bien souvent préparer la réflexion sur des sujets qui aujourd'hui font la une de l'actualité. 2 exemples suffiront à l'illustrer. En 2001, Thierry de Montbrial avait choisi pour thème de son année de présidence la France du nouveau siècle. Bien des thèmes traités, tels que l'idée de nation, la fonction publique, la révolution judiciaire, le système fiscal ou l'université, ont été au cœur des débats des dernières campagnes électorales et font aujourd'hui l'objet de réformes gouvernementales. De même, en 2002, notre confrère Marcel Boiteux avait consacré toute une année au développement durable. Eh bien, à l'époque, ce thème était peu porteur. Mais aujourd'hui, sa prégnance est telle qu'un ministère lui est consacré. Son titulaire, avec le titre de ministre d'État, occupe le 2e rang dans l'ordre protocolaire du gouvernement. Et il s'est particulièrement illustré lors du Grenelle de l'environnement. Et comment ne pas voir à quel point la lettre aux éducateurs qui a été rendue publique par le président de la République à l'occasion de la dernière rentrée scolaire a intégré des opinions depuis longtemps défendues par notre Académie. Les citations pourraient être nombreuses. En voici 2. La première, il faut ouvrir le monde de l'éducation sur le monde de l'entreprise, qui sera celui dans lequel la plupart de nos enfants vivront leur vie d'adulte. Et la seconde, où la filiation avec la célèbre lettre aux instituteurs de Jules Ferry est pleinement assumée, est la suivante, nous avons le devoir d'apprendre aux enfants que tout ne se vaut pas, que toute civilisation repose sur une hiérarchie de valeurs, que l'élève n'est pas l'égal du maître. Alors que, pour la première fois depuis un siècle, un membre de notre Académie et le plus jeune de nos confrères, Xavier Darcos, a été nommé ministre de l'Éducation nationale, permettez-moi de déceler dans cette lettre présidentielle, un signe doublement positif pour nous. Non seulement nos messages peuvent être entendus, mais des perspectives nouvelles peuvent s'ouvrir pour notre compagnie. Comment nier en effet que les sciences morales et politiques puissent avoir un rôle dans l'appréhension de cette hiérarchie des valeurs dont la lettre aux éducateurs souligne la nécessité ? Composée de membres élus en raison de leur expérience et de leur aptitude à prendre du recul, l'Académie a précisément pour mission de distinguer les idées éprouvées des pensées chimériques et les repères solides des références aventureuses. Aussi pouvons-nous nous réjouir de l'intention des pouvoirs publics de rouvrir le chantier des programmes scolaires. Nous nous ferons un devoir d'être présent dans les débats qui ne manqueront pas d'avoir lieu à ce sujet. Il s'agit, je crois, d'un des domaines particulièrement sensibles où notre compagnie doit se tenir prête à remplir sa mission dans la fidélité à sa vocation première et à son indépendance à l'égard des pouvoirs. Notre Académie a été refondée en 1832 par le grand Guizot. En retraçant dans ses mémoires les étapes de cette refondation, Guizot écrivait « Les académies, groupes sous un drapeau pacifique, sans leur imposer aucun joug, aucune unité factice, des hommes qui, sans ce lien, seraient restés absolument étrangers les uns aux autres. » Peut-on mieux définir l'esprit qui animait notre confrère Gabriel de Broglie, chancelier de l'Institut, lorsqu'il a pris l'initiative d'organiser ici même la première historiquement la première rencontre des académies européennes les 22 et 23 octobre dernier autour du thème « Les académies en Europe au XXIe siècle ». Notre propre académie y était représentée par l'archiduc Otto de Habsbourg, membre associé étranger depuis 37 ans, cette éminente personnalité européenne, née avant la guerre de 1914, sous le règne de son arrière-grand-oncle, l'empereur François-Joseph, s'est montré une nouvelle fois l'infatigable militant de la paix et de la démocratie en Europe. Le drapeau pacifique, cher à Guizot, ne pouvait être ce jour-là en de meilleures mains. Mieux encore, l'archiduc a conclu son propos en révélant un épisode particulièrement significatif de son expérience personnelle. En 1878, a-t-il dit, pour pouvoir être élu au Parlement européen, je souhaitais obtenir la nationalité allemande. Il avait la nationalité autrichienne. Or, ce genre de naturalisation était à l'époque très difficile à obtenir en Allemagne. Les Allemands n'accordaient la nationalité qu'à titre honorifique à des professeurs éminents, à des membres de grandes académies internationales, bref, à des intellectuels de renom, ou encore, troisième catégorie, à des footballeurs célèbres. Malheureusement, je ne suis pas joueur de football, dit-il, et c'est grâce à l'Académie des sciences morales et politiques que je suis parvenu à devenir allemand et membre du Parlement européen. Un autre grand européen, on l'a dit, Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg et président de l'Eurogroupe, a rejoint nos rangs lui aussi en qualité d'associé étranger, en dépit de ses multiples obligations nationales et internationales. Il s'est engagé, lui, l'héritier et le défenseur des valeurs humanistes d'un Robert Schuman et d'un Konrad Adenauer, a consacré un peu plus de son temps à participer, selon ses propres termes, aux grands débats sociétaux qui agitent la France et l'Europe. Et comment ne pas citer ici le pape Benoît XVI, puisqu'il est notre confrère depuis 15 ans. Après son élection au souverain pontificat, ce grand théologien a rappelé à plusieurs reprises combien il était attaché à l'Académie des sciences morales et politiques, notamment lorsqu'il a reçu au Vatican, le 11 février dernier, une délégation de l'Institut. Dans son allocution, le pape a évoqué ainsi la figure du grand savant et résistant Andrei Sakharov, son prédécesseur à l'Académie. Il aurait pu choisir un autre sujet, il a tenu à parler de son prédécesseur à l'Académie. Cette haute personnalité, a-t-il dit, nous rappelle qu'il est nécessaire, dans la vie personnelle comme dans la vie publique, d'avoir le courage de dire la vérité et de la suivre, d'être libre par rapport au monde ambiant, qui a souvent tendance à imposer ses façons de voir et les comportements à adopter. N'est-ce pas, exprimé ici en quelques mots, le principe même qui fonde nos travaux, nos messages et nos projets. Et pour terminer, je voudrais, à mon tour, me saisir du drapeau pacifique de l'idéal académique qui passe de main en main et de génération en génération pour le confier, ici même, aux jeunes filles que nous sommes heureux d'accueillir pour cette séance solennelle, comme vous le voyez, de part et d'autre de l'allée, à l'initiative du général Jean-Pierre Kelch, grand chancelier de la Légion d'honneur. Des bourses ont pu être constituées qui permettent à des lycéennes africaines, particulièrement méritantes, de poursuivre leurs études dans la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Plusieurs de ces jeunes filles sont ici aujourd'hui en compagnie de leurs condisciples françaises, en votre nom à toutes et à tous. Je les remercie très chaleureusement de leur présence parmi nous.
Mesdames, Messieurs, cette cérémonie est donc terminée. Afin d'assurer une sortie ordonnée, je demande maintenant aux lauréats ainsi qu'aux fondateurs de prix de bien vouloir quitter l'hémicycle pour se rendre à la bibliothèque de l'Institut en empruntant l'escalier qui se trouve derrière cette tribune. Je leur y remettrai dans quelques instants diplômes et médailles. Pour des raisons de sécurité, l'accès à la bibliothèque est limité à ces personnes ainsi qu'aux membres de l'Institut qui souhaiteraient les y rejoindre. Je vous remercie tous de votre présence et je vous invite à vous rendre en salle Comtesse de Caen dont l'entrée se trouve sur le parvis du palais pour un verre de l'amitié. La séance est levée.
Le 12 novembre 2007 s'est déroulée sous la coupole la séance solennelle de rentrée de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous venez d'entendre successivement Lucien Israël, président de l'Académie des sciences morales et politiques pour 2007, dresser le bilan des séances de l'année en cours consacrées au thème médecine, santé et société. Vous avez également entendu la proclamation du palmarès par François Terré et pour finir, le discours de Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques consacré au thème « L'actualité de la vie académique ».